Chers amis, nous avons été renouvelés nous-mêmes dans la grâce de la nouvelle naissance, cette nouvelle naissance que nous a obtenue le Christ par sa mort et sa résurrection. Il est bon de renouveler chaque année notre gratitude envers le Seigneur, qui a fait de nous des créatures nouvelles. Cependant, n'oublions pas que la grâce de Pâques se déploie entièrement à la Pentecôte. Et oui, il ne faut pas s'arrêter à Pâques. Le couronnement de Pâques, c'est Pentecôte. C'est le don de l'Esprit-Saint, sans lequel tous les germes de vie nouvelle que le Seigneur a mis en nous, au baptême, ne pourraient se développer. Car le Seigneur nous a créés pour que nous soyons transformés, pour que nous devenions des êtres non plus seulement charnels et psychiques, mais spirituels, c'est-à-dire vivants d'un esprit nouveau, de l'Esprit du Christ, de l'Esprit-Saint. Saint Paul ne craint pas de nous apostropher à cet égard. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple de l'Esprit-Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Nous ne prenons pas assez la mesure de ce changement ontologique. Le Seigneur, en effet, par le don du Saint-Esprit, ne nous a pas donné un vernis de respectabilité, mais il nous a profondément transformés intérieurement. Il a surnaturalisé notre âme par le don des vertus théologales. Par la foi, il nous rend aptes à le connaître. Par l'espérance, il nous oriente vers les biens éternels promis. Et par la charité, il nous fait entrer dans la possibilité de vivre de l'amour même de Dieu et d'honorer dans la joie le commandement nouveau « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». De plus, en nous donnant son Esprit-Saint, le Seigneur nous donne ses dons, qui sont des dispositions permanentes rendant l'homme docile aux impulsions de l'Esprit-Saint. Ces dons sont au nombre de 7, et on les trouve au chapitre 11 d'Isaïe, verset 2, quand celui-ci décrit le Messie à venir, sur qui reposera précisément l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, et esprit de crainte de Dieu. Ces dons qui étaient le privilège du Fils deviennent de fait le privilège de tous ceux qui sont renés, nés à nouveau, comme créatures nouvelles dans le Christ. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, évoque cet ennoblissement de notre être dans le Christ, ennoblissement qui nous fait participer à sa propre vie dans l'Esprit. Voici ce qu'il leur écrit. « Tous ceux qu'animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ. » Nous devenons ainsi participants de la nature divine, selon les mots de Saint Pierre dans sa deuxième lettre. Les dons de l'Esprit-Saint viennent compléter et mener à leur perfection les vertus de ceux qui les reçoivent. Ils rendent les fidèles dociles à obéir avec promptitude et amour aux inspirations divines. Et sans doute que ceux parmi vous qui n'ont pas toujours été chrétiens et qui le sont devenus se sont bien rendus compte de cette transformation profonde. Il y a un avant et un après. Pour ma part, j'ai pu le constater. N'ayant pas toujours été chrétienne, mes pensées étaient des pensées complètement mondaines. Et puis quand j'ai reçu le don de la foi, tout ce que je pensais avant m'est apparu comme incongru, faux et même horrible. Et je me disais, mais comment ai-je pu penser cela? Dans quel aveuglement j'étais? Et donc c'est comme des écailles qui tombent des yeux, et nous nous mettons à voir le monde autrement. Et ce qui semblait étrange ou ridicule avant devient soudain une évidence, non pas apprise dans les livres, mais reçue dans le cœur par une lumière venue d'en haut. Oui, Dieu existe, et il nous aime d'un amour inconditionnel. Oui, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, venu dans le monde pour nous sauver de nos péchés et nous illuminer de sa grâce. Oui, la Vierge Marie, la toute pure, est sa mère et notre mère, et elle prend soin de nous. Oui, les anges existent et ont reçu mandat de nous protéger, de nous conduire. Donc voyez, même notre intelligence est renouvelée. Elle reçoit une lumière qu'elle n'avait pas avant, tout comme notre cœur est rendu capable d'aimer bien davantage qu'auparavant, même si cela reste toujours un combat tant que nous sommes sur cette terre avec nos fragilités, les tentations multiples et les embûches de l'ennemi. L'homme qui se laisse ainsi transformer par la grâce du Saint-Esprit ne reste pas stérile. Il produit de bons fruits. non pas lui, mais la grâce de Dieu en lui. Et ce sont donc les fruits de l'Esprit-Saint. Et ces fruits sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit comme des prémices de la gloire éternelle. Dans sa lettre aux Galates, saint Paul énumère ces fruits. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Un tel homme, vivifié par la grâce du Saint-Esprit, ayant laissé l'Esprit-Saint le surnaturaliser, témoigne donc par sa vie que ce n'est plus lui qui vit, mais le Christ qui vit en lui, comme le disait saint Paul. Didyme d'Alexandrie, un théologien du IVe siècle, évoquait ce renouvellement de notre être que nous obtient le Saint-Esprit. Voici ce qu'il écrivait. « Le Saint-Esprit étant Dieu, nous renouvelle dans le baptême, en union avec le Père et le Fils. Il nous ramène d'un état de laideur à notre beauté primitive. Il nous comble tellement de sa grâce que nous n'avons plus de place pour accueillir tout ce qui serait indigne de notre désir. Il nous libère du péché et de la mort. Et à partir de l'existence terrestre, c'est-à-dire de la poussière et de la cendre, il fait de nous des hommes spirituels, participants de la gloire divine, fils et héritiers de Dieu le Père. Il nous rend conformes à l'image de son Fils, dont il nous fait les co-héritiers et les frères, destinés à être glorifiés et à régner avec lui. En échange de la terre, il nous donne le ciel et nous gratifie libéralement du paradis, nous rendant plus honorables que les anges. » Cela peut nous sembler étonnant. Comment pourrions-nous être plus honorables que les anges? Eh bien parce que, selon ce que disait saint Léon le Grand, commentant l'épisode de l'ascension du Seigneur au ciel, la nature humaine recevait, lors de l'ascension, une dignité supérieure à celle de toutes les créatures célestes. Elle allait dépasser les cœurs des anges et monter plus haut que les archanges. Les êtres les plus sublimes ne pourraient mesurer son degré d'élévation, car elle allait être admise, cette nature humaine, à trôner auprès du Père éternel, en étant associée à sa gloire, puisque la nature divine lui était unie dans la personne du Fils. Comprenons bien, le Verbe de Dieu s'est uni intimement à la nature humaine. Et donc, quand il remonte vers son Père, il ne remonte pas comme un pur esprit. Il remonte avec cette nature humaine qui est nôtre et qu'il a faite sienne. Et donc, notre nature humaine se trouve de fait élevée dans les cieux plus haut que les anges, recevant une dignité supérieure à celle des créatures célestes, comme nous dit saint Léon le Grand. Nous sommes dans le Christ, comme lui est en nous, et donc notre humanité est déjà au ciel, en lui. Le Christ est allé nous préparer une place, et cette place, elle est en lui, à la droite du Père, et donc bien au-dessus des anges. Voyez quelle dignité nous a valu le Christ. C'est qu'en effet, nous ne sommes pas nés seulement de la chair, mais de l'esprit. Car il y a pour l'homme une double conception, la conception charnelle. Nous sommes nés de l'union de nos parents, mais aussi une conception spirituelle où nous renaissons de l'Esprit-Saint dans le baptême. Saint Jean a évoqué ce mystère dans son prologue. « À tous ceux qui l'ont reçu, le Verbe qui s'est fait chair a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. » Donc, tous ceux qui ont eu foi dans le Christ, nous dit saint Jean, eh bien, ils ont été engendrés de Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Ils sont nés de Dieu, ils sont donc enfants de Dieu, devenus membres de la race de Dieu, nous dit le théologien Didyme d'Alexandrie. Que cet engendrement spirituel, cette nouvelle naissance, vienne du Saint-Esprit, le Christ lui-même nous l'a dit dans son dialogue avec Nicodème. « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne donc pas si je t'ai dit, il vous faut naître à nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Dans la piscine baptismale, ce n'est pas seulement notre âme qui est purifiée et renouvelée dans la grâce du Saint-Esprit, mais c'est notre corps aussi qui est sanctifié, car lui aussi a besoin d'être purifié par l'eau, comme le vase d'un potier, et ensuite d'être rendu solide par le feu de Dieu, car notre Dieu est un feu dévorant. Donc le corps lui-même est marqué du sceau du Saint-Esprit. Il devient le temple, le sanctuaire de l'Esprit-Saint qui habite en nous. Il acquiert donc une dignité extraordinaire, d'où l'importance de ne pas le profaner par le péché, par l'impureté. Ayons bien conscience qu'à la fin des temps, nous serons en présence du Seigneur au ciel, non pas seulement comme des âmes, mais comme des personnes ressuscitées, avec notre corps et notre âme sanctifiées. Saint Paul nous a annoncé cela dans sa lettre aux Philippiens. « Pour nous, dit-il, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir même se soumettre toutes choses. » Notre corps, mes amis, aura les propriétés d'un corps glorieux, à l'image et ressemblance du corps glorieux du Seigneur après sa résurrection. Dieu soit béni. Nous n'aurons plus d'arthrose au ciel. Nous ne serons plus en surpoids. La maladie ne nous rongera plus. Nous serons jeunes, beaux et en bonne santé, avec notre corps. Et c'est bien normal quelque part. Notre corps a peiné, il a souffert sur la terre. Eh bien, il participera lui aussi de la gloire au ciel. Il sera pris dans le rayonnement de la béatitude de l'âme à laquelle il est intimement uni, puisque nous sommes un, corps et âme. Cette espérance qui est la nôtre pour le ciel peut déjà se réaliser en partie sur la terre, à condition de nous laisser purifier par le feu du Saint-Esprit, purifier de tout égoïsme, du péché, libérés aussi de tout lien mondain qui nous entrave. En fait, il me semble que nous sommes très pauvres aujourd'hui. Nous avons perdu de vue la richesse du Saint-Esprit et tout ce qu'il peut opérer en nous. Quand nous lisons les Actes des apôtres, nous voyons des hommes, les apôtres, les disciples, remplis du Saint-Esprit, de tous ses dons et de tous ses charismes. Mais cela n'était pas réservé à l'âge apostolique, puisque nous voyons encore dans le traité de saint Basile sur le Saint-Esprit les actions merveilleuses de ce Saint-Esprit, justement. Or, saint Basile a vécu au IVe siècle, c'est-à-dire longtemps après les apôtres. Et voici ce qu'il dit. « Par le Saint-Esprit, les cœurs s'élèvent. Les faibles sont conduits par la main. Ceux qui progressent deviennent parfaits. C'est lui, l'Esprit-Saint, en brillant chez ceux qui se sont purifiés de toute souillure, qui les rend spirituels par leur communion avec lui. De là viennent la prévision de l'avenir, l'intelligence des mystères, la compréhension des choses cachées, la distribution des dons spirituels, la citoyenneté céleste, la danse avec les anges, la joie sans fin, la demeure en Dieu, la ressemblance avec Dieu et le comble de ce que l'on peut désirer, devenir Dieu. » Saint Basile parlait ici de ce qu'il connaissait, de ce qu'il expérimentait comme évêque de Césarée dans son église de Cappadoce. À cette époque, les disciples du Christ prenaient au sérieux cette transformation profonde opérée par le Saint-Esprit en chacun de nous. Et saint Basile en a vécu pleinement et il prêchait pour que tous puissent en vivre pleinement. Il ne considérait pas que tous ses dons et ses charismes étaient réservés à une élite. Il les voyait comme faisant partie de la vie normale du chrétien. Alors bien sûr, tous ne reçoivent pas tous les charismes, mais les charismes sont distribués dans l'Église pour le bien de tout le peuple de Dieu. Et ainsi, l'un peut recevoir la prévision de l'avenir, un autre l'intelligence des mystères, un autre la compréhension des choses cachées par le don de la sagesse, et puis la citoyenneté céleste, la danse avec les anges, etc. Saint Cyrille de Jérusalem, un autre père de l'Église du IVe siècle aussi, dans une homélie sur le Saint-Esprit, évoque aussi la puissance et la fécondité de l'Esprit dans ceux qui l'accueillent. Il nous dit que l'Esprit Saint est comme de l'eau. Il est cette source jaillissante pour la vie éternelle dont nous parlait Jésus lui-même. Or, l'eau opère de façon multiforme. Elle arrose selon ce qu'elle est, mais elle est différente dans le palmier, dans la vigne, dans la fleur, et se fait ainsi toute à tous. La pluie ne se transforme pas quand elle descend ici ou là, mais en s'adaptant à la constitution des êtres qui la reçoivent, elle produit en chacun ce qui lui convient. Eh bien, il en est de même pour le Saint-Esprit. Il a beau être un, simple et indivisible, il distribue cependant ses dons à chacun selon sa volonté, produisant des fruits différents en chacun. Il emploie la langue de celui-ci au service de la sagesse, nous dit saint Cyrille. Il éclaire par la prophétie l'âme de celui-là. Il donne à un autre le pouvoir de chasser les démons, à un autre encore celui d'interpréter les divines écritures. Il fortifie la chasteté de l'un. Il enseigne à un autre l'art de l'aumône. Il enseigne à celui-ci le jeûne et l'ascèse. À un autre, il enseigne à mépriser les intérêts du corps. Il prépare encore un autre au martyre. Voyez comme tous les dons et charismes de l'Esprit-Saint étaient accueillis et honorés dans ces premiers siècles de l'Église. Les évêques, bergers du troupeau, avaient bien conscience des bienfaits de l'Esprit-Saint dans le service de la sainteté des brebis du Seigneur. Et ils s'en réjouissaient, et ils encourageaient cette sainteté de grâce. Or, si le Saint-Esprit désirait être fécond à cette époque, combien il désire l'être encore aujourd'hui, alors que notre monde est en train de retourner au paganisme. Il veut toujours, à travers nous, rendre témoignage au Christ, pour que tous le connaissent et soient sauvés. Et donc, aujourd'hui encore, il n'y a pas de doute là-dessus. Il veut donner des dons à profusion et des charismes à l'Église pour qu'elle soit vraiment comme un phare dans la nuit. D'autre part, quand saint Basile affirme que l'Esprit-Saint nous fait devenir Dieu, il n'est pas fou. Car de fait, c'est bien là la vocation ultime de l'homme, devenir Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, comme ne cessaient de le dire les premiers pères de l'Église. Mais attention, cette transformation ne saurait être le fruit d'un orgueil luciférien, selon la suggestion du serpent dans la Genèse à nos premiers parents. Vous serez comme des dieux, autrement dit sans recevoir ce don de Dieu, mais en essayant de vous en emparer par vous-même, dans la désobéissance à Dieu, dans la rébellion contre Dieu. Cette transformation où l'homme devient Dieu ne peut donc être que le fruit du don de la grâce divine reçu dans l'humilité du cœur. Ce n'est pas nous qui nous divinisons, c'est Dieu qui nous divinise en nous faisant participer à sa vie divine. Nous sommes comme incorporés dans la divino-humanité du Christ par le Saint-Esprit et à proportion de notre humilité. Voyez, il y a bien là deux chemins opposés, même s'ils prétendent arriver au même but, à savoir devenir Dieu. Et il me semble qu'il est très important d'en avoir conscience en ces jours qui sont les derniers, comme dirait l'auteur de la lettre aux Hébreux, ou en ces jours de supercherie généralisée. Depuis le commencement, en effet, le Seigneur veut que nous nous laissions spiritualiser, sanctifiés par le Saint-Esprit, pour être rendus capables de participer à sa propre vie divine. Et Satan, lui, qui vient toujours pour singer Dieu, nous propose aussi un simulacre d'augmentation de notre être, mais non pas par une synergie avec le Saint-Esprit, mais par une synergie avec la machine, avec la technologie. Et c'est bien là que nous reconnaissons la supercherie, la falsification du projet de Dieu. C'est bien la grande tromperie qui nous est proposée en ces derniers jours. La technoscience, l'intelligence artificielle et les artefacts miniaturisés qu'on rajoute au corps ou au cerveau se proposent de remplacer le Saint-Esprit lui-même pour faire de nous des dieux omnipotents, omniscients, soi-disant. Les acteurs de la tech dans la Silicon Valley, notamment les dirigeants des start-up travaillant sur l'IA, l'intelligence artificielle, appellent de leur vœu le transhumanisme, autrement dit la post-humanité. Selon eux, en effet, l'humanité doit être dépassée, non pas pour être plus humaine, plus sainte, plus unie à Dieu, mais pour s'affranchir des limites de l'humanité, notamment de la corporéité, mais aussi de ses limites intellectuelles. Cependant, le risque de cette entreprise prométhéenne, c'est tout simplement l'abolition de l'humanité, de ce qui fait qu'un homme est homme, précisément. En effet, en visant un dépassement de l'humanité par la technologie, on risque de se retrouver non pas avec une humanité surnaturalisée par la grâce selon le projet de Dieu, mais avec une infra-humanité, une humanité amoindrie, technicisée, machinisée, qui perd sa dignité humaine, précisément. La synergie entre l'humanité et la technique n'aboutit pas à l'augmentation de notre humanité, mais à une transformation de cette humanité en cyborg, c'est-à-dire en une forme d'androïde moitié robot, moitié humain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le démon, n'étant pas Dieu, ne possède en lui-même ni la vie ni la grâce transformatrice. Il lui faut donc trouver un autre moyen qui donne l'illusion de l'augmentation et d'une transformation apparemment positive. Et cet autre moyen ne peut être qu'un moyen matériel ou spirituel, mais démoniaque. Le démon peut en effet donner des dons, nous en avions déjà parlé dans le thème des anges et des démons. Mais ces dons, qui sont une simulation inversée des dons de l'Esprit-Saint, ne sont pas au service du bien, mais du mal. D'autre part, le démon peut pousser les hommes dans l'orgueil, dans ce que les Grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire la démesure. Et il y a bien là une sorte d'orgueil et de démesure dans le projet de devenir soi-même comme un dieu par l'IA, par l'interface corps-machine et par toutes ces technologies de soi-disant augmentation de l'homme, par le transhumanisme. Alors attention, je ne suis pas en train de condamner la technique, bien évidemment. L'homme étant un être de culture, il a de tout temps utilisé des moyens techniques pour se faciliter la vie. Et cela manifeste son ingéniosité, et c'est bien. Mais une chose est d'utiliser la technique comme un moyen au service de l'homme, l'homme restant la fin, et une autre est de transformer l'homme par la technique, comme si le nec plus ultra n'était plus l'humanité, l'homme à l'image de Dieu, mais la post-humanité, c'est-à-dire la machine elle-même. Il faut bien saisir l'enjeu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Le démon semble nous recréer aujourd'hui à l'image de la machine. De spirituel, il nous fait déchoir au rang d'artefact. Vous remarquez bien à quel point aujourd'hui l'homme va jusqu'à déléguer sa pensée à des algorithmes. C'est comme si l'homme acceptait sa propre déchéance, son obsolescence. Et nous voyons bien cette pente. Aujourd'hui, les hommes s'émerveillent plus de l'intelligence artificielle et des prodiges qu'elle peut accomplir que de la sainteté d'un homme. Autrement dit, ils idolâtrent des algorithmes et oublient la dignité extraordinaire de la filiation divine de l'homme. Et cela ne nous étonne pas, dans la mesure où l'athéisme nous a fait entrer dans une société matérialiste et technicisée, qui vise à la performance et non plus à l'éthique ou à la vie de l'esprit. Il s'agit désormais d'être efficace comme un ordinateur et non pas saint comme un fils de Dieu. C'est un basculement dont on n'a pas fini de mesurer les conséquences délétères. En fait, l'IA, l'intelligence artificielle, vient faire honte à l'homme de ce qu'il est, dans la mesure où elle peut le dépasser sur tout un tas de performances intellectuelles. Non pas que l'IA soit intelligente, mais par une infinité de calculs algorithmiques, elle peut donner l'illusion non seulement d'un savoir impressionnant, et cela n'est pas compliqué puisqu'elle a accès à tous les contenus sur Internet, mais elle peut aussi donner l'illusion d'une intelligence, d'un raisonnement pensé. Or, ceci est normalement le propre de l'homme. Voyez à quel point cela soulève un questionnement sur l'homme. Bien sûr que si l'homme n'est qu'un corps et une intelligence, il peut lui sembler être dépassé par la machine, par l'IA, et perdre son aura, sa dignité propre. Mais l'homme n'est pas une intelligence calculatrice sur pattes. Il est à l'image de Dieu, à l'image du Verbe incarné, corps, âme, esprit. Le corps n'est pas un truc limité dont il faudrait se débarrasser, comme le pensent certains fans de l'IA et des interfaces homme-ordinateur. Dieu lui-même a pris chair et il a élevé le corps à une grande dignité. Le corps est désormais le vecteur de l'amour. L'amour se laisse toucher et l'amour a besoin de toucher pour se dire, pour faire le bien, pour donner. Quand Mère Teresa allait chercher les mourants dans les caniveaux de Calcutta, qu'elle enlevait les vers de leurs plaies et qu'elle les soignait, c'était bien avec son corps qu'elle exprimait l'amour du Christ pour ses pauvres. Et cela, l'IA ne le fera jamais, parce qu'il n'y a pas d'amour dans l'IA, ni de corps pour se donner. De même, les facultés de l'âme que sont la mémoire, l'intelligence et la volonté concourent ensemble dans le sujet libre, pour lui permettre de donner sens à sa vie. L'homme ne se contente pas de savoir. Il pense et agit en fonction du bien, de ce que lui dicte sa conscience éclairée par la lumière de Dieu. Et par son esprit, la fine pointe de l'âme, l'homme peut être en relation avec plus grand que lui, avec le Dieu transcendant et éternel. Il peut être rendu participant de la vie même de Dieu, à travers sa fragilité. Donc sa dignité est infiniment plus grande que l'IA. Mais il doit se rappeler qui il est vraiment pour ne pas succomber à une forme d'idolâtrie de la machine, simple œuvre de ses mains, ni à une forme de honte, de dépréciation de soi, d'abdication fataliste de ce qui fait sa grandeur. Gardons dans notre cœur la prière du psalmiste, cette prière qui témoigne de notre incommensurable dignité. Oui, c'est toi, Seigneur, qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté y soit faite comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses et apprends-nous à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Toi appartiennent règne, puissance et gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Chers amis, j'ai beaucoup insisté sur la grandeur de l'homme et sur sa vocation à devenir fils de Dieu dans le Fils Jésus-Christ, et ceci par la grâce du Saint-Esprit. Le Père, en effet, qui nous aime tant, a un grand désir de partager sa vie avec nous. Par le don qu'il nous fait de lui-même, il veut nous attirer à lui et nous unir à lui dans l'amour, de telle sorte que nous soyons rendus participants de sa nature divine, et que nous puissions vivre de sa vie. Cette anthropologie chrétienne, cette façon d'appréhender l'homme, qui est la nôtre, nous la voyons exprimée dans l'Évangile selon saint Luc à propos de Jésus. Après être resté à Jérusalem à l'insu de ses parents, il redescend à Nazareth. Or, que nous est-il dit de Jésus? Eh bien qu'il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Autrement dit, Jésus grandit dans toutes les dimensions de son humanité. D'abord dans sa dimension corporelle, il grandit en taille, mais aussi dans son intelligence et sa volonté, puisqu'il grandit en sagesse. Et enfin, il grandit dans la dimension surnaturelle de la grâce divine. Si nous ne gardons pas ces trois dimensions, eh bien nous amputons l'homme de la plénitude de son humanité. Un être qui ne serait que corps et intelligence serait un être spirituellement rachitique, limité, un être qui ne déploierait pas tous les germes de vie nouvelle que Dieu a déposés en son cœur. Aujourd'hui, malheureusement, dans un monde marqué par l'athéisme, par le refus de Dieu et de la vie de la grâce, l'anthropologie même est faussée. Notre vision de l'homme est rabougrie. Nous avons perdu la dimension de la grâce, et les conséquences d'une telle perte sont incommensurables. Vous imaginez un peu, l'homme créé à l'image et ressemblance de Dieu, l'homme créé par Dieu et pour Dieu, est désormais coupé de l'infini, enfermé dans les limites de son humanité, sans plus pouvoir espérer la divinisation à laquelle il était pourtant appelé par grâce. L'homme ne se reçoit plus comme un don de Dieu, et il a aussi perdu la perspective qu'il était appelé à devenir lui-même don pour les autres. Comment alors la désespérance n'envahirait-elle pas son cœur? Lui qui était fait pour Dieu, il se retrouve sans Dieu, et le sens même de sa vie lui échappe. Nous voyons les ravages de cette perte aujourd'hui, où les paradis artificiels de la drogue tentent de combler le vide intérieur, où les rêves fous des transhumanistes cherchent à pallier l'absence de la grâce par la technoscience pour essayer de devenir comme des dieux, mais sans la grâce de Dieu. Cependant, cela est un leurre, une illusion qui n'amènera que plus de désolation intérieure. Dans la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II, au numéro 22, nous pouvons lire ceci. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Autrement dit, qui veut connaître l'homme doit regarder Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Qui veut connaître quelle est la vocation humaine de tout homme doit regarder la vie du Christ. Le Verbe incarné est donc le seul fondement de toute anthropologie vraie. N'oublions pas en effet que le Christ est le second Adam, à l'image duquel le premier Adam a été façonné. Autrement dit, le modèle de l'humanité. Ce n'est pas Adam qui n'est qu'une figure, c'est bien le Verbe incarné à l'image duquel a été créé Adam. Et il s'agit de reconnaître la vocation accomplie de l'humain à la lumière de l'humanité de Jésus de Nazareth, puisqu'en lui s'est manifesté le dessein bienveillant et préétabli du Père sur les êtres humains. Saint Paul, dans le commencement de sa lettre aux Éphésiens, s'en est fait l'écho. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dit-il, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. » Voyez, nous avons là la véritable anthropologie chrétienne, qui suppose que l'on reconnaisse que nous avons été voulus et créés par le Père pour devenir fils dans le Fils, et participer par le don de l'Esprit à la communion de l'amour trinitaire. Les transhumanistes, c'est-à-dire ceux qui veulent augmenter la nature humaine grâce à des artefacts techniques, grâce à une interface cerveau-machine, grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, ne se rendent pas compte que la véritable augmentation de l'humanité ne passe pas par la technique, mais par l'accueil de la grâce. Et la grâce, c'est quoi? Eh bien, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous dans le Christ, comme un amour qui nous élève, nous purifie, nous transforme et conduit de fait notre vie à sa plénitude en la divinisant. Elle est là la véritable augmentation de l'humanité à laquelle nous sommes appelés. Voyez, Dieu ne nous a pas créés pour être des cyborgs, des sortes de créatures hybrides, hommes-machines, ultra-performantes, mais il nous a créés pour être des saints, élevés plus haut que nous-mêmes, par la grâce du Saint-Esprit qui habite en nous, jusqu'à nous faire vivre de sa propre vie et de la plénitude de son amour. Ce n'est pas le savoir ni l'omniscience dans une perspective gnostique, ni la toute-puissance qui nous sauvera et nous augmentera, entre guillemets, mais c'est l'amour et uniquement l'amour. Le Fils de Dieu, en s'incarnant, a non seulement assumé notre nature humaine, mais il l'a transfigurée. Il ne s'agit donc pas de chercher à aller au-delà de Jésus, qui est l'homme parfait, mais il s'agit de le rejoindre en entrant toujours plus profondément dans son mystère pascal. En effet, en Christ, les croyants sont transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est esprit, nous rappelait saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Faut-il donc que nous ayons perdu de vue l'extraordinaire nouveauté apportée par le Christ pour nous laisser fasciner par une transhumanité qui viendrait soi-disant parachever en la dépassant notre humanité? Car la plénitude de notre humanité, elle est dans le Christ. Et je pense que nous ne l'avons pas encore pleinement accueilli, parce que nous n'avons pas encore pleinement accueilli l'Esprit Saint, lui qui seul peut nous introduire dans cette nouveauté insurpassable qu'est le Christ. Saint Paul en était venu à dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Il vivait de cette vie nouvelle en Christ, et cette vie nouvelle consiste en une assimilation progressive au Christ, jusqu'à avoir en nous les sentiments mêmes du Christ, la pensée du Christ, la volonté du Christ, qui n'est autre que celle du Père, et l'amour même du Christ aussi. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », nous a dit Jésus. Or le Seigneur ne commande pas des choses impossibles à la nature humaine. Donc nous sommes réellement rendus capables d'un tel amour, d'un amour divin, non pas par nos propres forces, mais par la grâce du Saint-Esprit. Pour avoir une idée de ce qu'est une humanité pleinement accomplie, il n'est que de regarder la vie des saints. Et vous remarquerez que les saints ne sont pas forcément des gens parfaits. Dieu déploie sa puissance en eux, mais il la déploie dans leur fragilité. Saint Paul avait bien compris ce mystère quand, après avoir demandé à Dieu de lui enlever l'écharde dans la chair, qui lui rappelait sans cesse sa misère, Dieu lui avait répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. » Et saint Paul en avait tiré les conséquences. « C'est donc de grand cœur, dit-il, que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Oui, le Seigneur nous aime dans notre petitesse et notre fragilité, dans notre existence limitée. Pour accomplir toutes ces merveilles en nous, il attend seulement de nous la foi, la confiance et l'espérance. La sainteté, ce n'est pas la perfection ni la performance. La sainteté, c'est le déploiement de la grâce de Dieu dans une humanité certes fragile, mais tellement aimée de Dieu. On pourrait donc dire que la sainteté, c'est, oui, l'augmentation de l'humanité qui se laisse diviniser par la grâce. Mais cette augmentation ne passe pas par une transgression, par le désir orgueilleux de devenir un surhomme. Contrairement au projet du transhumanisme qui nous est présenté aujourd'hui comme l'apothéose de l'évolution humaine. Dans le transhumanisme, dans ce projet de dépasser l'homme par la technoscience, il y a une rupture anthropologique, alors que dans la sainteté, il n'y a pas de rupture. Il y a le déploiement de la vie nouvelle que nous donne le Christ et que le Père a déposé en nos cœurs par l'Esprit-Saint. C'est bien différent. Alors comment en est-on arrivé à une telle rupture aujourd'hui? Eh bien, on pourrait dire que cela a été préparé depuis longtemps. C'est comme une accumulation de confusions et de ruptures successives qui nous ont fait perdre de vue le projet initial de Dieu, et l'extraordinaire grandeur de la dignité humaine appelée à la divinisation. Revenons, si vous le voulez bien, à l'origine. Quand nous ouvrons le livre de la Genèse, le premier verset nous place devant l'origine de toute chose, à savoir Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, Dieu crée à partir d'une situation de chaos qui précède la création. En effet, il nous est dit que la terre était vide et vague. Littéralement, en hébreu, c'est « tohu et bohu », c'est-à-dire le désert et le vide. À partir de ce tohu-bohu initial, où tout est confusion, désordre, Dieu va tout créer par sa parole. Et cette création est une mise en ordre. Dieu crée et ordonne le monde en séparant. Ainsi, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Puis il sépara la lumière et les ténèbres. Ensuite, il crée le ciel et le sépare de la terre. Il crée la terre et la sépare des eaux. Il crée et il sépare, non pour opposer, mais pour créer une complémentarité ordonnée. Vous savez que saint Augustin disait que la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Eh bien, Dieu crée toutes choses en distinguant et en mettant de l'ordre. Lumière, ténèbres, jour, nuit, terre, ciel, terre, mer. Et ainsi, Dieu crée un environnement ordonné et donc un environnement de paix pour y accueillir l'homme, sommet de la création et intendant des mystères de Dieu. Vous remarquerez aussi que Dieu crée toutes les choses et les arbres fruitiers, de même que toutes les bêtes et les animaux, chacun selon son espèce. C'est donc une manière de séparer les espèces. Il n'y a pas de mélange ni de confusion entre les espèces. Et je vous rends attentif à une distinction encore plus essentielle, à savoir celle entre les êtres vivants et l'homme. En effet, il nous est révélé qu'au sixième jour, Dieu dit « que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages. » La parole de Dieu nous dit donc que « de la terre sont produits les êtres vivants. » Or, juste après, Dieu dit « faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, les bêtes sauvages, etc. » Voyez le saut qualitatif. L'homme n'est pas créé dans le prolongement des êtres vivants produits par la terre. Il est créé à l'image et ressemblance de Dieu, et non des autres êtres vivants. Même si Dieu s'est servi de la poussière du sol pour le créer, mais il lui a donné son souffle, une âme spirituelle qui l'élève au-dessus de tous les autres êtres vivants. Ainsi, sa dignité est tout autre. La parole de Dieu nous révèle bien une différence de nature et non simplement de degré entre l'homme et l'animal. Voyez, il y a là aussi une séparation, une distinction et une hiérarchisation. L'homme est le reflet de Dieu sur la terre et il reçoit mission de dominer sur les êtres vivants. Non pas selon une domination tyrannique, évidemment, mais selon un dominium de sagesse qu'il partage avec Dieu. Dieu a fait de l'homme le roi de cette création, qu'il reçoit comme un don à protéger. Les distinctions ne s'arrêtent pas là. Nous voyons la création de l'homme où il nous est dit « Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. » Là aussi, il y a une distinction, non pour une opposition, encore une fois, mais pour une complémentarité dans l'amour. L'homme et la femme sont en effet appelés à devenir une seule chair. Dieu a donc créé le monde en l'ordonnant avec sagesse à partir du chaos initial. Mais l'ennemi de Dieu, Satan, déteste cette création de Dieu, comme il déteste Dieu. Lui, ce qu'il veut, c'est déconstruire cet ordre. Il veut ramener le monde au tohu-bohu pour faire échec au projet d'amour de Dieu. Il veut ramener le monde au chaos initial pour faire émerger un monde déconstruit dont il serait le maître. Ce que Satan a en ligne de mire, c'est l'homme qu'il veut abattre parce qu'en abattant l'homme, il abat l'image et la ressemblance de Dieu. Il veut que l'homme soit déchu de sa dignité humaine. Et on le voit à l'œuvre dans tant de révolutions, comme celui qui détruit les ordres naturels pour semer la confusion, l'anarchie, comme celui aussi qui pousse à toutes les transgressions pour briser l'humanité en l'homme. Jésus nous a avertis que le démon était menteur et homicide depuis le commencement. Donc ses projets sont des projets de destruction et de mort. On peut dire que jusqu'à la Révolution française, l'homme imprégné des valeurs chrétiennes et d'une anthropologie chrétienne se percevait comme fils de Dieu, créé à l'image et ressemblance de Dieu. Puis les philosophes du XVIIIe siècle ont commencé à saper cette vérité, jusqu'à la remise en cause radicale lors de la Révolution française, où les églises ont été profanées pour devenir les temples de la raison. L'inspiration franc-maçonne de la Révolution française a été bien étayée par les historiens. Et on en a vu les fruits. On s'est débarrassé de Dieu en mettant à la place une sorte de grand horloger dépourvu d'amour. On a tué le roi de droit divin pour établir une république née dans le sang du génocide vendéen et de l'usage généralisé de la guillotine. On a cherché à couper l'homme de toute transcendance en prétendant faire de lui le seul législateur de sa vie. Il n'était désormais plus fils de Dieu, ni à son image, mais seulement un citoyen, un être de raison. Ni maître, ni Dieu, c'est le nom d'une loge maçonnique actuelle qui reflète bien l'esprit révolutionnaire d'alors. Un régime qui rejette Dieu ne peut que produire des fruits de violence et de mort. Et la Révolution française en a été un bel exemple, puisqu'elle s'est déployée sous la forme du chaos social et de la terreur. Cette attaque contre la dignité de l'homme, qu'on peut qualifier de démoniaque, n'était que le prélude à un rabaissement de l'homme encore plus radical, avec la théorie de l'évolution de Darwin au XIXe siècle. Celui-ci pensa que les espèces évoluaient par la sélection naturelle, un mécanisme où les individus les mieux adaptés à leur environnement survivent et se reproduisent davantage et transmettent leurs traits avantageux à leur descendance. Seulement Darwin a confondu espèce et variété. Il y a une seule espèce de chien, par exemple, mais une multitude de races, des bergers allemands, des bulldogs, des caniches, etc. Les races peuvent évoluer par croisement, par exemple, par adaptation aussi à l'environnement. Mais l'espèce, elle, demeure. Et il ne peut y avoir croisement entre espèces. Les chiens ne s'accouplent pas avec les chevaux ou les chats. Ça ne marche pas. De même pour l'espèce humaine, il y a des races différentes qui peuvent se croiser, mais il y a une seule espèce humaine qui ne saurait s'hybrider ni avec des animaux ni avec quoi que ce soit d'autre. Et la génétique le confirme aujourd'hui. Mais la Genèse nous l'avait déjà dit. Dieu a créé chaque être dès le commencement selon son espèce. On a cherché pendant des années à trouver le chaînon manquant dans l'évolution entre l'homme et le singe. Mais cette recherche a été abandonnée dans les années 90, car de fait, ce chaînon manquant, on ne l'a jamais trouvé, et on ne le trouvera jamais, parce qu'il n'y a jamais eu, à un moment donné de l'histoire, une espèce hybride homme-animal. D'ailleurs, depuis des millénaires, le singe côtoie l'homme, mais il ne s'est jamais mis à parler. Et pour cause, il n'a pas reçu cette âme spirituelle, qui est le propre de l'espèce humaine. La théorie de l'évolution, dont la conséquence a été de penser qu'il n'y a pas une différence de nature mais seulement de degré entre l'homme et l'animal, autrement dit que l'homme ne serait que le fruit d'une évolution hasardeuse et naturelle du singe, cette théorie donc ne tient pas d'un point de vue métaphysique. En effet, le plus ne peut venir du moins. La vie ne peut jaillir de la matière inerte, de ce qui est minéral. Ce n'est pas possible. La vie vient de la vie, et donc elle ne peut venir que de celui qui possède la vie en lui-même, Dieu. De même, l'esprit ne peut jaillir ni de la matière inerte, ni de la vie simplement organique. Il ne peut être donné, l'esprit, que par celui qui est esprit, autrement dit par Dieu. Pour le dire autrement, la pierre n'a pu engendrer le vivant, et le vivant lui-même, par exemple le singe, n'a pu engendrer l'homme spirituel. L'esprit ne pouvait être créé que par quelque chose qui était déjà esprit. C'est pourquoi je vous dis qu'en bonne métaphysique, le plus ne peut venir du moins. Cette théorie de l'évolution s'est tout de même répandue et elle s'est avérée bien utile pour abattre un peu plus la religion et ôter toute noblesse à l'homme. La révolution avait fait que l'homme, image de Dieu, devienne un simple être raisonnable. Désormais, cet être raisonnable devenait un animal évolué, non plus fils du ciel, mais uniquement produit par la terre, comme les autres êtres vivants. En abolissant la différence de nature entre l'homme et l'animal, on ouvrait la voie aux dérives actuelles de l'antispécisme, cette doctrine du philosophe Peter Singer qui rejette toute discrimination fondée sur l'espèce, ce qui aboutit à un égal traitement des hommes, des animaux et des végétaux. Un journal suisse avait ainsi sorti un article il y a quelques années dont le titre était « Les droits de la salade ». Eh bien oui, si l'homme, image de Dieu, n'est plus le roi de la création, mais un vivant parmi d'autres, pourquoi la salade, l'arbre, la punaise de lit n'aurait pas autant de droits que lui ? Le philosophe Paul Ricoeur a parlé de Darwin comme d'un maître du soupçon, parce qu'il a jeté le soupçon sur la noblesse de l'homme précisément. Mais pas seulement lui, Freud et Nietzsche aussi. Nietzsche, en proclamant la mort de Dieu, a privé l'homme de ses repères moraux traditionnels, le bien, le mal, la vérité, l'illusion. Pour lui, l'homme n'est pas un être rationnel, mais il est d'abord un être de désir, de pulsion et de domination. Et ce qui fait sa grandeur, c'est sa volonté de puissance, qui l'achemine vers l'exaltation de soi et le dépassement de toute entrave morale. Il s'agit de vivre par-delà le bien et le mal. L'homme n'est finalement qu'un pont vers le surhomme, une étape transitoire dans l'évolution. Nietzsche annonçait ainsi, d'une certaine façon, le transhumanisme actuel. Pour ce qui est de Freud, lui, il a jeté le soupçon sur l'homme en disant que l'homme était plus guidé par son inconscient, c'est-à-dire ses pulsions, ses désirs, que par sa raison. Autrement dit, l'homme ne serait pas maître chez lui. Il serait le jouet de ses désirs refoulés, davantage mu par sa sexualité que par sa conscience et sa raison. Que l'homme ne soit pas mu que par sa raison, oui, sans aucun doute. Mais justement, ce qui fait sa grandeur, c'est qu'il est capable de dominer ses passions, de suivre la voie de l'esprit et non celle de ses pulsions. Aujourd'hui, la déconstruction se poursuit dans le transgenrisme, qui est une forme de négation du réel, de rejet de la distinction homme-femme et d'affirmation d'une fiction. Chacun pourrait choisir son genre selon le désir du moment, être homme, femme, binaire, non-binaire, queer, etc. Voyez, toutes les limites qui structurent l'humanité depuis la nuit des temps sont comme abolies, et on le voit d'une manière particulière dans la sexualité. On encense l'homosexualité. On a tous les jours des scandales de pédophilie ou d'inceste qui s'étalent dans nos médias. On sexualise les enfants dans les écoles par les programmes de soi-disant éducation sexuelle, qui ne sont rien d'autre qu'une forme d'initiation à une sexualité adulte et déviante. Ceci manifestant aussi que la distinction enfant et adulte est en train de tomber. À cela s'ajoutent les transgressions concernant la vie. Si l'homme n'est qu'un animal comme un autre, pourquoi s'interdire de le tuer par l'avortement ou l'euthanasie? La dignité consistant désormais dans le choix de la mort et non plus de la vie. Le prince de ce monde, comme l'appelait Jésus en parlant de Satan, s'avère être très efficace dans son œuvre de déconstruction et de retour au chaos. Il fait tomber les séparations et les limites fondatrices. Mais il n'a pas fini encore. Aujourd'hui, l'IA, l'intelligence artificielle, vient rajouter une blessure à l'homme, celle de lui faire croire que la machine le surpasse et qu'il n'est plus bon qu'à être mis à la casse pour obsolescence avérée. À moins d'accepter une nouvelle hybridation, cette fois avec les puces et circuits électroniques dans une interface homme-ordinateur. Pour les transhumanistes, cela n'est que la continuité de l'évolution darwinienne. De l'animal à l'homme par une pseudo-hybridation homme-singe, puis de l'homme à la machine, à l'IA, par une nouvelle pseudo-hybridation cerveau-machine, et ceci dans une visée post-humaine, où les hommes refusant l'augmentation technique ne seront plus utiles et devront disparaître, dépassés par des IA devenus des dieux. Ceux qui prônent le transhumanisme et l'intelligence artificielle pensent que nous sommes arrivés au temps de la surhumanité. Et c'est bien là le mensonge du diable, car de fait, c'est plutôt le règne d'une infra-humanité qui commence. La question essentielle aujourd'hui est donc bien la question anthropologique. Il s'agit de nous souvenir de ce qu'est l'homme dans le dessein d'amour de Dieu. Il s'agit de nous souvenir de notre dignité d'enfant de Dieu, appelée non à la technicisation de notre être, mais à la divinisation de notre être par le Saint-Esprit. Et alors nous pourrons résister à toutes ces séductions mortifères. Nous pourrons demeurer en Christ, demeurer dans son amour, et finalement demeurer pleinement humain à l'image et ressemblance de Dieu.